Cham philo.
Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo.
Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.
Bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Cham. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de Cham philo avec Edouard Engels, notre professeur de philosophie au lycée, qui va essayer de répondre au nouveau sujet qui est « Sommes-nous réellement libres de nos choix ou nos actions sont-elles déterminées par des forces extérieures ?»
Ils ont emprisonné un enfant.
Truman, c'est interdit !
Pourquoi ? Il y a quoi de l'autre côté ?
Ils ont créé un mensonge.
Envoyez le soleil.
Ils contrôlent une vie.
Truman Burbank.
J'ai pas le droit de t'adresser la parole.
Et ils appellent ça...
Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux
que de te trahir.
Et là, on se met doucement jusqu'au gros plan.
Un divertissement.
Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche.
Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme.
Si vous ne dites pas ce qui se passe, je porte plainte.
Paramount Pictures présente...
Truman !
Le nouveau film de Peter Weir, le réalisateur de Witness et du Cercle des Poètes Disparus.
Il s'est cassé.
Peter Weir propose en 1998 de mettre en scène Jim Carrey dans le rôle de Truman Burbank, vedette d'une série de télé-réalité depuis sa naissance. Persuadé de n'être qu'un simple agent d'assurance marié à une infirmière dans la ville de Sea Haven, Truman ignore en réalité que tout son monde n'est qu'un plateau de tournage à grande échelle où tous ses amis et concitoyens ne sont que des acteurs et des figurants. Alors que Truman pense avoir le contrôle sur sa destinée et sur ses choix, tous les événements et péripéties de sa vie sont en fait décidés par la production de l'émission de télé, de sorte que Truman ait l'illusion d'être libre sans l'être vraiment. Peut-être pouvons-nous d'ailleurs commencer par définir ce qu'est la liberté et analyser ainsi comment cette notion se rapporte à la condition de Truman dans le film Truman Show.
En effet, donc dans le film du Truman Show, il est question donc de ce problème qui est la liberté. Et la liberté, si on veut donner une première définition qui se veut assez simple, c'est la capacité de faire des choix sans être contraint ou sans rencontrer d'obstacles, de forces extérieures par rapport à cette volonté. Donc pour agir librement, il faut quelque chose qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie en grec, c'est le fait de se donner à soi-même sa propre règle, sa propre loi. Auto, c'est soi-même. Nomos, c'est la loi. Et donc la liberté, ça se définit simplement comme cette indépendance que nous avons, de pouvoir prendre des choix, d'avoir donc des décisions qui sont libres. Si je décide par exemple de m'orienter vers tel ou tel métier, si je décide de ma destination de vacances pour cet été, si je décide de déménager, on peut généralement penser qu'on prend ses choix selon donc notre volonté et selon une volonté qui serait libre. Truman ainsi peut être persuadé que lorsqu'il va au travail le matin, c'est quelque chose qui correspond à un exercice de sa volonté, et il a aussi l'impression donc qu'il a une phobie de l'eau qui serait donc qui lui est propre, et lorsqu'il décide donc d'éviter de partir en vacances, quand il décide donc de ne pas aller à la plage, on pourrait penser que ça vienne de sa propre volonté. Sauf qu'en fait, le film nous montre que son père serait mort dans une tempête marine, ce qui était en fait une volonté de la production du film pour lui transmettre une phobie de l'eau. Dans l'univers dans lequel il vit, à Sea Haven, il y a des publicités qui font en sorte de montrer que voyager, c'est dangereux, qu'on est bien chez soi. Et donc, en fait, dans ce film, on a ici une contradiction entre, d'une part, une volonté qui se voudrait libre de Truman, et d'autre part, toute une série donc de causalités extérieures qui, en fait, engagent sa volonté. Ces causalités-là, c'est ce qu'on appelle le déterminisme, et c'est la théorie qui s'oppose à cette théorie de la liberté. Et la théorie du déterminisme, c'est celle qui affirme que tous les événements, y compris les actions humaines, seraient causés par des conditions antérieures qui obéissent à des lois, en quelque sorte, qu'on ignorerait, en fait. Donc selon cette perspective, cette deuxième perspective du déterminisme, nos choix et nos actions sont inévitables, elles sont prédéterminées et des facteurs extérieurs les entraînent, que ce soit notre environnement, l'éducation, peut-être même la biologie. Et même si cette phobie est induite par la production, on peut quand même cependant montrer que Truman reste un petit peu libre de voyager, de quitter Sea Haven, il y a une tension entre les deux.
En ce sens, l'être humain, malgré l'influence de son environnement, reste libre de ses choix.
Absolument. La liberté, effectivement, elle se vit avant tout. C'est-à-dire que Truman, dans le film, vit effectivement le fait qu'il a quand même une volonté qui s'exerce. Et donc, même s'il y a une forme de déterminisme qui a l'œuvre dans le film, en même temps, il se sait libre parce qu'il fait des choix. Et on a donc ici une première référence qu'on peut mobiliser, c'est celle de René Descartes, qui affirme qu'effectivement, il est du propre de l'être humain d'être un être libre, de prendre des décisions, de faire des choix. Il y a d'ailleurs plusieurs degrés pour cela, et Descartes donne ici même l'indécision comme étant un degré de liberté. Quand on ne sait pas quoi faire, quand on a deux possibilités, une alternative qui se présente à nous en termes de choix de vie, par exemple, on a ici une forme d'indécision qui est le plus bas degré de liberté selon Descartes. Donc la liberté, c'est le fait de pouvoir affirmer, nier, vouloir, ne pas vouloir, prendre un parti ou un autre. Ce pouvoir, c'est ce qu'il appelle le libre arbitre. Un autre auteur va même plus loin pour ça. Parce qu'effectivement, même si Descartes parle bien de ce principe de l'indécision comme étant le plus bas degré de liberté, on peut même penser que cette liberté est entièrement présente dans notre vie. Et on a un deuxième auteur qui est Jean-Paul Sartre, qui affirme que, donc dans sa pensée qui est une pensée de l'existence, c'est le mouvement de l'existentialisme, qu'en fait nous sommes même plus que simplement libres, nous sommes même condamnés à être libres. Ce philosophe français pense effectivement que notre existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous nous déterminons par nos choix et cela nous définit par la suite. On a besoin en fait en tant que chaque individu de choisir de se déterminer, de faire des choix, et ces choix donnent notre définition. Avant d'être un lycéen, avant d'être un pâtissier, avant d'être prof de philosophie, nous sommes avant tout des êtres humains. Et si nous sommes lycéens, pâtissiers, profs de philo, c'est que cela est le fruit de choix. Et donc notre essence, notre définition, vient de l'exercice de notre volonté libre, donc de l'usage de notre liberté. Et on doit ainsi constamment choisir et définir qui nous sommes à travers nos actions. Et même lorsqu'on ne veut pas choisir, en fait, on est encore en train de choisir. Voilà. Même si on doit choisir une carrière, même si on doit choisir des conseils de la part de proches, notre liberté s'exerce toujours nécessairement. Et donc, il en revient toujours de notre liberté pour pouvoir choisir.
Pourquoi d'autres philosophes pensent-ils que nos actions sont déterminées par des forces extérieures ?
À l'inverse, effectivement, d'autres philosophes se sont inscrits dans cette idée que nous ne serions pas spécialement libres, en fait, en permanence dans nos actes, et que cette liberté ne serait qu'une forme d'illusion. Spinoza, notamment, c'est donc l'un des plus grands représentants de cette idée-là, a écrit un livre qui s'appelle L'Éthique, et il défend cette idée que le libre arbitre, en fait, serait une illusion, puisque à chaque fois que l'on décide d'une chose, à chaque fois qu'on pose un choix, en fait, on entraîne certes une série de causalités, une série de causes qui sont produites par ce choix-là, peut-être que notre choix aussi est le fruit d'une certaine causalité qui l'entraîne, mais alors qu'on se croit libre, en fait, on ne connaît pas toutes les causes qui sont à l'œuvre à chaque fois qu'on prend une décision. La maxime, en fait, qu'il affirme, c'est celle-là, c'est que nous nous croyons libres dans la mesure où nous ignorons les causes qui nous déterminent. Je reformule cela, on a l'impression de faire des choix, alors qu'en fait, dès que nous choisissons, il y a des causalités à l'œuvre que nous ignorons. Il y a en fait des conditions dans lesquels nous nous plaçons, qui font qu'en réalité, on ne choisit pas vraiment. Truman, dans le film, a l'impression d'avoir peur de l'eau, alors qu'en fait, quand il fait le choix d'éviter donc d'aller à la plage, eh bien en fait, c'est quelque chose qui est induit par la production, par l'équipe studio qui a préparé le scénario de sa vie. Et donc, tous ces éléments, en fait, ici, sont des éléments qui viennent déterminer sa volonté. Si Truman avait conscience de toutes les causes qui sont donc à l'œuvre dans le scénario de sa série télévisée, effectivement, il verrait qu'il n'est pas vraiment libre, puisque du coup, il saurait en fait que tous ses choix en fait sont induits par des conditions qui précèdent l'exercice de sa volonté. Et nous, en fait, donc c'est ce qu'affirme Spinoza, nous sommes dans l'impossibilité de pouvoir calculer tous les états du monde, pouvoir calculer tous les états de chaque situation, de chaque contexte, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on prend des choix, alors qu'en réalité, nous ne faisons que réagir à une série donc de causes qui sont déjà présentes. Donc on a dit effectivement que cela venait donc d'une ignorance de notre part de toutes les causes qui nous déterminent, et il y a aussi un deuxième penseur qu'on peut mobiliser, c'est le philosophe et physicien français Laplace, qui imagine en fait qu'on pourrait théoriquement avoir accès à l'ensemble de ces causes qui sont à l'œuvre. Mais pour ça, il faudrait une sorte d'esprit surpuissant, ou d'une sorte de gros ordinateur, d'un calculateur qui en fait permettrait de savoir toutes les positions des états physiques à un moment donné. C'est ce qu'on appelle le fameux démon de la place. Et donc si Truman connaissait tous les états du monde à chaque instant, s'il connaissait toutes les circonstances dans lesquelles il est mené à agir, et bien effectivement, il saurait qu'il n'est pas libre.
Existe-t-il des perspectives intermédiaires entre le libre arbitre et le déterminisme ? Parce que finalement, on sent bien que dans le cas de Truman, sa liberté vient bien entrer en conflit avec le déterminisme à l'œuvre dans son univers.
En effet, le libre arbitre et le déterminisme ne sont pas finalement des théories qui sont valables. Enfin, elles rentrent en tension en fait. Il y a quelque chose qui est lors d'une rencontre entre ces deux théories qui traitent de la liberté, mais qui en fait rentrent en conflit. Et on voit bien, donc d'un côté, on peut penser être libre, mais nous avons un ensemble de circonstances qui peuvent entraîner nos choix et nos décisions. Alors qu'en même temps, de l'autre côté, on pourrait penser être complètement déterminé, sauf qu'on sent bien qu'on a aussi un degré de liberté qui est en exercice dans notre vie. Ces théories-là, qui cherchent donc à faire tenir les deux bouts, c'est ce qu'on appelle des théories compatibilistes, et qui essayent donc de voir dans quelle mesure nous sommes libres, même lorsque nos motivations et désirs pourraient être influencés par l'extérieur.
Expliquez-nous cela, c'est très contradictoire et semble difficile à tenir.
En effet, les compatibilistes croient que la liberté, en fait, ne nécessite pas l'absence d'un univers qui serait complètement déterminé. C'est-à-dire qu'on peut partir du principe que le monde, d'une certaine façon, réagirait à des lois nécessaires dans lesquelles il n'y aurait pas donc de ce qu'on appelle de contingence. La contingence, c'est le fait de pouvoir avoir une marge de manœuvre quand on agit, quand on prend des choix. C'est-à-dire que pour les théories compatibilistes, il est possible de concilier un univers qui réagit à des lois nécessaires et en même temps un libre agir humain. Le premier auteur auquel on peut penser, c'est Emmanuel Kant, qui pense effectivement que la nature marche avec des lois. On est en fait obligé, quand on fait des sciences naturelles, d'avoir recours à des lois nécessaires. Quand on veut expliquer comment fonctionne tel ou tel phénomène, on doit passer par le concept de causalité. La causalité, elle est nécessaire, elle ne change pas d'avis en plein milieu de son action, quoi. Alors que l'être humain, lui, intimement, au fond de lui-même, il se sait libre, puisqu'effectivement, quand il prend ses décisions, quand il choisit au quotidien, à chaque fois, il se conscientise, en fait, il se sait consciemment libre, ce qui fait qu'il y a cette double possibilité qui est à l'œuvre, où d'un côté, quand on observe donc le monde qui nous entoure, on a un recours à un déterminisme, on a recours en fait à la notion de causalité, alors que quand nous-mêmes nous analysons donc le monde d'un côté pratique, c'est ici une division qu'il introduit entre les deux, on se sait libre. Il faut donc diviser notre vision du monde d'un côté entre un aspect théorique des choses où on essaie de connaître les relations de causalité entre les objets, et d'autre part le domaine pratique, qui est complètement distinct de ce premier. Et donc le domaine pratique, c'est dans le domaine dans lequel nous exerçons notre liberté, dans lequel donc nous croyons que nous pouvons nous déterminer par notre propre volonté.
On fait le constat qu'on se sait libre. Est-ce que finalement cela n'aurait pas des conséquences sur le déterminisme qui nous empêcherait d'être responsables de nos actes?
En effet, le déterminisme, donc si on le maintient malgré cette liberté, on peut penser donc qu'il y a des conséquences vis-à-vis de, notamment de la responsabilité. C'est-à-dire si on sait que les êtres humains sont libres maintenant, on doit maintenir cette croyance-là, parce qu'en fait, le déterminisme pourrait empêcher certaines pratiques humaines qui sont nécessaires et qui impliquent cette idée de liberté. Pour être plus clair, en fait, par exemple, si on soutenait le déterminisme à fond, on pourrait tomber dans ce qu'on appelle le fatalisme. C'est un philosophe qui s'appelle Daniel Dennett, qui est un neurologue et philosophe américain, qui en fait a montré qu'il était nécessaire de maintenir une croyance dans la liberté, humaine, puisque si on soutient philosophiquement que le déterminisme est à l'œuvre et qu'en fait on n'a pas de liberté humaine, en fait pour nous les humains c'est intenable. J'explique ça assez donc facilement, puisque si par exemple on soutient le déterminisme à fond, eh bien, quelqu'un qui commet des injustices, quelqu'un qui commet des crimes, peut se dédouaner de sa responsabilité. D'autre part, du point de vue des personnes qui ne font pas d'injustice, qui ne commettent pas le mal, on a besoin de savoir qu'on peut agir librement pour pouvoir justifier le fait donc d'avoir recours à des jugements, à des recours au tribunal. Et donc finalement, on a besoin en fait, biologiquement, c'est vraiment imprimé dans l'être humain, d'avoir un sentiment de liberté afin de pouvoir justement assurer la bonne conduite des individus et aussi justifier des pratiques comme celle donc des condamnations en justice. En fait, si nous étions déterminés de A à Z, nous ne pourrions plus croire en la notion d'injustice, nous ne pourrions plus croire en ces autres notions-là, alors qu'en fait on a besoin, biologiquement parlant et aussi donc moralement parlant, d'avoir recours à ces notions-là.
Merci beaucoup, Edouard, pour cet éclaircissement philosophique.
Cham philo. Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo. Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.